Bienvenue au podcast Le Sac du Cœur. Mon nom est Didier Hormé-Juste et cette semaine, on a un podcast qui est très rempli, très chargé. C'est toujours chargé avec plusieurs sujets, football, NFL, les Canadiennes, les Alouettes, mais là, c'est chargé en termes d'invités notamment. Alors, tout d'abord, je vais avoir la chance d'interviewer Anthony Auclair des Texans de Houston, les Texans qui ont passé à deux doigts de vaincre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre dimanche après-midi. Ensuite de ça, il y a Mika Guerrier et Maxime Martin qui vont venir se joindre à moi afin de discuter là, des sujets chauds de la NFL. C'est pas ça qui manque, notamment le congédiement de l'entraîneur des Raiders de Las Vegas, John Gruden, qui est l'ancien entraîneur des Raiders. Ça fait bizarre de dire ça, mais c'est mérité cette démission de la part de Gruden. On va en parler plus en détail un peu plus tard. Et comme à l'habitude, il y a Marc-André Chaloux qui va venir faire un tour afin de jaser fantasy football, y aller de ses conseils en vue de la sixième semaine d'activité de la NFL qui va commencer jeudi soir. Et je vais conclure en revenant sur cette victoire des Alouettes de Montréal contre le Rouge et Noir d'Ottawa. Ça se passait lundi après-midi au stade Percival Molson. Mais tout d'abord, on va commencer avec la visite au podcast de l'ami du podcast, Anthony Auclair. Anthony qui a inscrit finalement, Anthony, le premier touché de ta carrière sur une passe de Davis Mills. Donc, je te demande d'entrée de jeu, là, dis-moi, là, décris-moi le jeu, puis qu'est-ce que tu as ressenti là, quand tu as entendu le bruit de la foule après avoir inscrit ton premier touché en carrière?
Premièrement, il faut dire que ça a juste pris 5 ans et 59 matchs. On l'a eu finalement. Écoute, dans cette situation-là, il allait jouer man coverage. Donc, pour moi, on a couru ce concept-là 100 fois en pratique. Les 100 fois, j'ai jamais eu le ballon. En fait, ce que je devais faire, c'est créer de l'interférence pour Pharaoh Brown qui courait dans le flanc. Mais finalement, son joueur qui devait le couvrir était déjà à l'extérieur, donc je ne pouvais pas créer d'interférence. Puis moi, je courais un tracé en coin, un corner route. Quand j'ai couru, en fait, là, on était en short yardage, je pense que c'était 3e et 1. C'était un play action, donc la défensive a joué la course, puis le joueur qui devait me courir, le numéro 23, a joué la course. Donc, c'est sûr que si tu regardes le pourcentage de jeux que j'ai joué cette année, ce pourcentage de jeux-là qui a été une course ou un play action, souvent ça a été la course, donc je ne s'attendais pas nécessairement à ça. Donc, c'est ça que j'ai couru. J'ai passé le numéro 23, j'ai remarqué que personne ne me couvrait, donc je me suis retourné pour aller courir mon tracé au complet. Je me suis retourné tout de suite pour voir si Davis avait vu la même chose, puis on était sur la même page, donc ça a donné ce que ça a donné.
Oui, puis dis-moi, qu'est-ce que tu as ressenti, là? Parce que comme tu l'as dit, là, c'était après 59 matchs, tu comptais les matchs, tu savais où tu en étais rendu. Justement, au niveau de matchs joués dans ta carrière. Donc, qu'est-ce que tu as ressenti là, lorsque tu as attrapé le ballon dans la zone début? C'est à domicile en plus de ça. Vous aviez l'avance contre les Patriots. Le son de la foule, dis-moi, là, qu'est-ce que tu as ressenti?
Ben, c'est un feeling spécial parce que faut dire aussi que la dernière fois que j'avais marqué un touché, c'était en 2016 à la Coupe Vanier. Donc, ça faisait quand même longtemps que j'avais pas vécu ce feeling-là. Mais. C'était fou, je pense que j'ai perdu, I lost my mind, j'ai vu noir, je criais, man, c'est comme un bref souvenir de ce qui s'est passé parce que je suis viré fou, raide. Après ça, j'ai spiké la balle, mais là, en spikant la balle, j'ai comme réalisé que, man, faut que je garde ce ballon-là, il est rendu où?
Est-ce que tu l'as gardé?
Ouais, mais c'est ça, je suis arrivé sur le sideline parce que quand je l'ai spiké, le ballon, il est complètement disparu. Je suis arrivé sur le sideline puis j'ai demandé au gars d'équipement d'aller me retrouver le ballon. Puis, mais c'est un feeling incroyable, man. Puis ce que je trouve vraiment plus cool aussi, c'est que mes coéquipiers qui savaient que c'était mon premier en carrière étaient vraiment contents pour moi. Puis tout le monde célébrait. Donc, j'ai trouvé ça fou. Là.
Ben écoute, félicitations encore une fois, Anthony. Moi, j'étais très heureux pour toi. On en avait discuté par le passé. Là. Je savais à quel point tu avais hâte d'inscrire ton premier touché en carrière dans la NFL. Puis moi, j'étais à la description du Red Zone, du NFL Red Zone, en compagnie de Jasmin Leroux. Puis, tu sais, le NFL Red Zone, si tu l'as déjà regardé, ça va vite. On se promène d'un match à l'autre. Ouais. Là, on va à Houston. Je vois une passe de toucher s'attraper dans la zone début. Puis là, je vois le numéro 83. Là, immédiatement, je me suis mis à crier « Hey, c'est Anthony! C'est Anthony! » premier toucher en carrière d'Anthony Auclair. Fait que j'étais vraiment très heureux pour toi. Puis je sais que mes collègues également, Mathieu Proulx, Bruno Eppel, étaient très heureux de voir là, finalement inscrire un touché. Écoute, ça s'est passé dans un match. Malheureusement, ça n'a pas été accompagné d'une victoire. Vous avez mené pendant la grande majorité de la rencontre. Parle-moi de ça, là, de la déception là, de s'être incliné contre les Patriots de l'Angleterre. Parce que Davis Mills, il a connu tout un match, trois passes de toucher face à la défense de Bill Belichick, mais malheureusement, à la toute fin, vous n'avez pas été en mesure de conserver l'avance.
Ouais, c'est un... T'sais, on a eu une victoire, une défaite assez difficile contre les Bills à Buffalo la semaine dernière, la semaine avant à New England. Puis on est revenu travailler. Davis a toujours gardé son calme. Ça ne l'a pas affecté. Il revient dans un match comme ça, puis joue un excellent match. Donc, pour moi, c'est quelque chose que quelque chose de fou à voir. C'est pas quelque chose qu'on voit chez quelqu'un de normal là, à la position de carrière. Je pense que c'est un calme qui va le faire grandir. Puis c'est l'atout que tu dois avoir en tant que carrière. Mais définitivement, une défaite crève-cœur. Écoute, 22-9 au troisième quart. Je pense qu'on l'a redonné à la game sur un jeu tournant là, sur les special teams. Je pense que ça n'a rien à voir avec les calls, les coachs. C'est nous qui avons mal exécuté. Le momentum a tourné quand on s'est fait bloquer un punt. Donc, pour nous, c'est sûr qu'il faut grandir là-dedans. C'est une défaite qui est assez difficile parce qu'on est de vivre quelques défaites de suite. Je pense que, tu sais, ça fait 5 ans maintenant que j'en ai, j'ai fait partie des équipes qui étaient moins bonnes, des équipes qui étaient meilleures. Équipe, ça rend les choses encore plus difficiles quand tu perds des matchs comme ça. Donc, il faut juste continuer à travailler et s'améliorer. Puis, tu sais, la moitié de l'équipe cette année, c'est des nouveaux joueurs. Puis ça, faut mentionner parce que c'est difficile d'avoir une cohésion ensemble. Puis je pense que c'est un processus qui prend du temps. Et surtout avec un carrière recrue. Si tu regardes les carrières qui ont été repêchés dans le premier round, tu cumules le nombre de victoires qu'ils ont. Ils n'en ont pas beaucoup. Puis, Davis, c'est pas un carrière qui a été repêché au premier round. Il joue quand même bien. Donc, c'est un processus qui prend du temps. Il faut être patient. Mais c'est sûr que dans la NFL, tu veux gagner immédiatement. Puis chaque défaite est vraiment difficile. Donc, il faut juste continuer à travailler.
Ouais, mis à part le match contre les Bills de Buffalo dont tu as fait allusion, vous avez livré de bonnes batailles. Vous avez gagné votre premier match de la saison. Puis, bon, de qu'est-ce qu'on dit? Apparemment, il faut donner beaucoup de crédit à l'entraîneur-chef David Carley. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur David Carley, votre entraîneur-chef, qui, lui, c'est un vieux routier de la NFL. Il a attendu longtemps avant d'avoir son opportunité de devenir entraîneur-chef.
Hey man, c'est un gars qui vient à chaque jour est positif, amène une énergie incroyable. Souvent, dans la défaite, les entraîneurs-chefs vont comme être fâchés ou vont être un peu plus négatifs. Puis je trouve que David, c'est ça qu'il apporte, c'est l'énergie positive, puis on va toujours de l'avant, on regarde toujours de l'avant, puis je pense que ça va commencer à apparaître là, dans les prochaines semaines, là, on s'améliore, puis son attitude fait en sorte que, justement, on passe dans le passé, puis on apprend de nos erreurs, puis on continue à s'améliorer.
Oui, bien, cette semaine, vous allez jouer contre les Colts d'Indianapolis, alors ça va être une opportunité, justement, pour peut-être décrocher une victoire. Les Colts, eux, ils ont eu un long match contre les Ravens de Baltimore lundi soir. Finalement, la rencontre a été décidée en prolongation. Alors, ça va être une courte semaine pour eux. Alors, j'espère que vous allez pouvoir en tirer profit et aller chercher une deuxième victoire cette saison. Ben, écoute, Anthony, je ne veux pas te retenir plus longtemps. Je sais que tu as un horaire chargé. Comme à toutes les fois, je te remercie de ton passage au podcast Le Sac du Cœur. Puis encore une fois, félicitations pour le premier touché de ta carrière. Puis j'espère que là, ça ne sera pas le dernier de la saison que tu vas en inscrire d'autres. Parce qu'on va garder un œil sur toi. Moi, quand je suis au NFL Red Zone, c'est sûr que je vais garder un œil sur tes performances le dimanche.
Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Ça fait plaisir d'être là.
Ah ben parfait. Passe une bonne fin de journée. On se repart.
Vous aussi.
Alors, Anthony Auclair des Texans de Houston et des rapprochés. Alors, on souhaite bien sûr, Anthony, là, de connaître du succès au cours des prochaines semaines avec les Texans. Alors, comme je vous disais, je vais être accompagné, oui, de Maxime Martin et de Mika Guerrier cette semaine afin de faire le tour là, de ce qui se passe à travers la NFL. Mika, ça fait un petit bout de temps qu'on ne s'était pas parlé de football. La dernière fois qu'on s'était parlé, ouais, c'était avant le début de la saison régulière. Et Maxime, je te souhaite la bienvenue au podcast Le Sac du Cœur. C'est la première fois qu'on a la chance de t'avoir comme invité. Pour les gens qui ne savent pas, tu es un grand fan de football, grand fan de football de la NFL, grand fan de football universitaire américain. Je vois que tu portes ton chandail de Wake Forest. Wake Forest connaît une bonne saison, surprenamment.
Pas si surprenamment que ça, mais bon, en tout cas, on en reparlera. Oui. Hey, merci de m'avoir. Moi, je suis bien excité. Je suis un petit peu dans un carré de sable, content de parler de football.
Ben oui, puis écoute, justement, la semaine dernière, toi, tu as eu la chance d'aller à Foxborough pour le retour de Tom Brady au Gillette Stadium. Alors, rapidement, si tu peux nous parler de l'atmosphère, puis c'était comment là, cette expérience-là, de voir Brady de retour au Gillette Stadium, mais dans un uniforme différent.
Ben, en fait, juste de vivre l'événement, c'était magique. Si on a pris un taxi de l'aéroport, on est débarqué en plein milieu d'un tailgate. C'est juste les premières odeurs de barbecue, puis on sait c'est quoi un tailgate américain, je veux dire, c'est la folie. Oui, c'est du monde un peu saoul, mais donc un gars qui s'est ostiné avec son miroir de char, ça j'ai rien compris, mais bon. Mais écoute, l'ambiance, sérieux, je veux dire, je pense que 50% des gens qui étaient là portaient un chandail de Brady. Quand le réchauffement a commencé, évidemment les gens l'ont applaudi. Il y a une courte vidéo évidemment pour le souligner sa présence. Mais quand le match a commencé, c'était fini. Il était dans l'autre équipe. Et on va donner ça aux fans de Boston là. Je veux dire honnêtement, c'est des vrais. Dans le sens que garde. Merci pour tout ce que t'as fait. Maintenant t'es l'autre bord. Tu portes pas les bonnes couleurs. Tout le monde était derrière Mac Jones. Puis même moi. Tu sais, moi je suis un fan des Pats depuis. Tu sais, moi, j'étais là quand on a repêché Tony Eason à la place de Dan Marino. Tu comprends-tu, là? J'ai souffert longtemps, là.
Ça fait trahit ton âge.
oui, mais j'avais 10 ans à l'époque. Faut me donner un break. Mais même moi, tu sais, je me suis rendu compte que ma période Brady était finie. Puis maintenant, c'est la période Mac Jones qui commence.
Oui, bon, on va voir comment ça va se dérouler, la période Mac Jones. Il a connu un bon match. Il a permis aux Patriots de revenir de l'arrière contre les Texans d'Houston. C'est un jeune cœur, il en est juste à sa première année. Donc, comme on le disait, comme Anthony le disait, c'est pas facile pour les carrières recrues depuis le début de la saison. Et ça, c'est bien normal. Ben écoutez, messieurs, on va commencer notre petit tour là, des actualités de la NFL, de tout ce qui s'est passé lors de la 5e semaine d'activité. On va pas commencer en parlant d'un match en tant que tel, parce que hier, ça a été vraiment une grosse nouvelle. Tout au long du week-end, il y a eu des développements. John Gruden, l'entraîneur-chef des Raiders, qui a démissionné de son poste. Écoutez, il avait pas le choix, tout simplement. Au cours du week-end, au cours des derniers jours, ben, il y a des courriels qu'il a envoyés au cours des dernières années qui ont refait surface. Là-dedans, écoutez, là, il a insulté pas mal la majorité des gens. On parle de courriels racistes à l'endroit du président de l'Association des joueurs de Maurice Smith, des courriels misogynes. Il n'était pas en faveur de l'embauche de Sarah Thomas comme arbitre du côté de la NFL. Propos homophobes, anti-transgenres. Bref, comme je disais, là, il n'a pas épargné personne. On parle de courriels qui ont été envoyés entre 2011 et 2018. Donc, 2018, c'était juste il y a 3 ans. J'ai commencé par toi, Mika. Quelle a été ta réaction face à toute cette histoire-là qui s'est passée du côté de Vegas?
Déçu et soulagé parce que John Gruden, c'est pas le meilleur entraîneur, mais c'était probablement un des meilleurs broadcasters ou analystes de la NFL en termes de couleur. Tu sais, en anglais, on dit color commentary. Tu sais, c'est celui qui amenait de la couleur. C'était pas le meilleur. Puis même son Super Bowl qu'il a gagné en 2002, rappelez-vous, c'est Tony Dungy qui avait bâti cette équipe-là. Fait que son aura était un peu surfaite, mais j'aimais la personnalité qu'il avait, la personnalité qui l'amenait et ce qu'il y avait autour de lui. Tu sais, son surnom, Chucky, les espèces de diagrammes qu'on faisait avant les matchs, les animations avec sa face en Chucky. C'était le fun de le voir à ESPN. Mais aussitôt que les emails sont sortis, écoute, j'ai été déçu, puis il n'y avait pas le choix d'avoir des sanctions. Puis c'est une patate chaude pour la NFL, puis je suis soulagé parce que la NFL n'aura pas à trancher. Parce que comment tu congédies quelqu'un pour quelque chose qu'il a fait avant d'être dans tes rangs? Il y avait une espèce de zone grise. Je suis surtout triste pour ses collègues de ESPN qui l'ont défendu en ondes dimanche en disant « Ben, John a toujours été super cool avec nous. » Hey, non, mais écoute, imagine Didier, tu sais, tu défends quelqu'un qui a fait plus qu'une gaffe. Là. On s'entend, là, ça donne une bonne idée de son caractère. Puis là, le lendemain, tu apprends que finalement, toutes les minorités y sont passées. Sérieux, c'est comme s'il y avait une liste. Il a dit « Bah, je vais insulter toutes les minorités qui sont sur cette liste-là. On va y aller une par une dans un email sur une période de 7 ans. Ça n'a aucun sens. Puis il a démissionné, mais en fait, j'ai l'impression qu'il a été démissionné par Davis.
Oui, bien, c'est aucun doute. Là, il y a des avocats qui sont entrés dans la conversation à un certain moment donné puisqu'il avait signé un contrat de 10 ans avec les Raiders. Alors, on ne pouvait pas le congédier parce que si on congédiait, là, on aurait dû lui payer ce qui lui restait sur son contrat. Donc, je suis sûr qu'on a négocié une entente. Mais Maxime, toi, c'était quoi ta réaction lorsque tu as appris la nouvelle et puis ta réaction face au courriel de John Gruden? Qui a démontré finalement comment il pensait. Puis, peu importe, au cours du week-end, il dit « Ah, écoutez, je suis pas un raciste. » Mais à certains moments donné, lorsque tu envoies ce genre de courriel-là à quelqu'un, c'est ce que tu penses. Là. Il nous a démontré qui il était vraiment.
Ben, en fait, un peu comme Maker, triste, mais surtout berné. Je me sens berné parce que moi, j'étais un méga fan. Je suis entièrement d'accord que je pense que c'était un entraîneur surévalué. Tu sais, son retour sur ce contrat-là de 10 ans, 100 millions était complètement ridicule. Je pense que c'était plus un stunt publicitaire avec le déménagement de l'équipe, évidemment, d'Oakland à Vegas. Mm. Mais moi, c'était un de mes commentateurs préférés au Monday Night. Sa perception de la game du haut des estrades, dans the booth, comme on dit, là, tu sais, était quand même toujours fascinante à suivre. Et tu sais, quand le premier a sorti, et je pense que tout le monde est pas mal d'accord en général, tu sais, je veux dire, quand il y a de la fumée, le feu ne suit pas longtemps après, mais j'aurais jamais soupçonné que ça avait pris cette ampleur-là, tu sais, puis comme Maker a dit, tu sais, honnêtement, la Ligue n'a pas besoin de se mouiller là-dedans, moi je pense qu'il y a d'autres dossiers chauds dans lesquels je trouve que la Ligue est un peu peureuse, tu sais, entre autres le dossier de Watson, mais c'est ça la société d'aujourd'hui, et il était temps, tu sais. Tu sais, moi, en humour, je le vis, tu sais, parce que on n'a pas le même vocabulaire sur scène qu'on a déjà eu, tu sais, je veux dire, il y a des prises de conscience, et on va ailleurs, et c'est une bonne chose aussi. Et, tu sais, des fois, j'entends des gens dire la tolérance, cette espèce de tolérance zéro-là est exagérée. Non, parce que, sais-tu quoi, elle aurait dû exister bien avant aujourd'hui. C'est juste un effet miroir de l'accumulation d'années de on balaie tout sous le tapis, on fait comme si de rien n'était, ah, une excuse publique, c'est bien assez, ça ne passe plus.
Ouais, non, ça c'est bien résumé, Maxime. Et je veux juste conclure avec l'aspect football dans tout ça. Parce que les Raiders, dimanche, ils ont perdu face aux Bears de Chicago et ils étaient méconnaissables sur le terrain. Moi, j'avais hâte de voir leur performance à la suite là, bon, des premiers courriels qui avaient été mis au grand jour. Puis c'était pas la même équipe qu'on avait vue depuis le début de la saison, les gars. Leur attaque était explosive depuis le début de la saison. On a marqué quoi? Juste 9 points contre les Bears. Ouais. Bon, il y a des gens après le match qui disent « Ah, ben les Bears ont une bonne défense. » Non, non, je m'excuse. J'ai vu les Raiders assez de fois depuis le début de la saison pour savoir qu'ils ont vraiment une très bonne attaque. Ouais. Il n'y a aucun doute que ça a eu un impact, que ces commentaires du côté des joueurs. Puis là, faut pas oublier que du côté des Raiders, on mise également sur, pas seulement, OK, c'est pas juste la majorité des joueurs qui sont noirs, mais on a également Carl Nassib, l'ailier défensif qui, avant le début de la saison, ben lui, nous a communiqué qu'il était gay, qu'il était homosexuel. Et puis là, t'as ton entraîneur-chef qui va de commentaires contre les gays. Il était contre l'arrivée de Michael Sam dans la NFL il y a quelques années de ça. Alors, comment vous auriez voulu que Gruden continue de diriger cette équipe-là? Alors ça, au niveau de l'aspect football, pour moi, il n'y a aucun doute que ça va complètement bousiller la saison des Raiders qui connaissaient un excellent début de saison.
Mais moi, je pense que tu sous-estimes les Bears de Chicago. Honnêtement, je pense que...
Non, mais moi, je voulais juste dire que mon commentateur préféré du Monday Night, c'était pas John Gruden, c'est Pierre Vercheval. Juste que ce soit clair. Salut, Pierre.
OK, c'est bon. Ouais, tu restes un jeu de compagnie, hein? C'est bon, c'est excellent. Ben, excellent. Bon, ben messieurs, on va parler là, de match de football, là. Parce que c'est la dernière fois qu'on parle de John Gruden, on ne va plus jamais le revoir dans le monde du football. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. On a le droit à tout un match lundi soir. La soirée de lundi soir était folle. Tout un match de football, il y avait l'affaire de Gruden qui se développait en parallèle. Mais sur le terrain, les Ravens de Baltimore ont gagné 31-25 en prolongation contre les Colts d'Indianapolis. Ça a été un effondrement des Colts parce que tout fonctionnait pour Indianapolis. On menait par la marque de 22-3. En deuxième demi, Lamar Jackson s'est mis en marche. Ça a été spectaculaire. John Harbaugh, l'entraîneur-chef des Ravens, après le match, il a dit que ça a été la meilleure performance à laquelle il a jamais assisté sur un terrain de football. En deuxième demi, en prolongation, Lamar, messieurs, 29 en 32, 355 verges et 4 touchés. Au total, 440 verges par la passe, 500 verges d'attaque totale, juste à lui seul. Maxime, quelle a été là, ta réaction face à ce match-là? Premièrement, les Colts qui ont pris l'avance, les Ravens qui reviennent, Lamar qui nous éblouit avec son bras. C'est ce que je veux souligner. Ouais. Parce que depuis quelques semaines, c'est avec son bras qu'il connaît du succès.
Ben, en fait, moi, je pense qu'on est peut-être témoin aussi de la maturité du jeune homme. Tu sais, je veux dire, c'est sa quatrième, cinquième saison dans la Ligue. Moi, je ne savais pas à quoi m'attendre de Baltimore cette année. C'est pas la défensive d'une certaine époque, mais en même temps, elle n'est pas négligeable non plus. De toute façon, je pense que cette année, la défensive de bien des équipes est testée. On s'entend, là, c'est vraiment... Je pense que la NFL n'a jamais été aussi offensive. Et d'un autre côté, Carson Wentz, pour moi, va toujours rester une espèce d'énigme. Beaucoup de monde disait que c'était la pièce manquante pour que les Colts se rendent peut-être loin en série, sans parler de Super Bowl. Retour avec le coach qui a procréé autant de succès dans le temps qu'il était évidemment avec les Eagles de Philadelphie. Mais honnêtement, moi je pense que on va en parler plus tard, mais je pense que tout le monde parle des Chiefs, on va peut-être en parler moins de temps en temps, tout le monde parle des Bills, mais là je pense qu'il faut voir qu'on parle aussi des Ravens. Puis bravo à Lamar Jackson, beau sens du show business, on garde le punch-out pour la fin.
Et toi, Meeker, qu'est-ce que t'as pensé là, de cette rencontre-là?
Ben, je vais rebondir sur ce que Maxime disait sur le sens du show business. Je ne sais pas si vous avez vu les images de Lamar Jackson qui dit, une fois qu'il gagne le pile ou face, il dit « c'est fini ». C'est fini, bon, j'embarque sur le terrain et j'achève ça. Pis c'est exactement ça qu'il a fait. Écoute, ça a été un match vraiment excitant. Puis, tu sais, le lundi soir, c'est mythique pour une raison, il y a juste un match. Tout le reste de la Ligue regarde ce match-là. Tout le monde regarde ce match-là. Puis c'est là qu'on voit les stars qui naissent ou qui contribuent à leur légende. Et hier, c'est ce qu'a fait Lamar Jackson. C'est extraordinaire. J'étais tout seul dans le salon, je regardais ce match-là. Je pensais que j'allais réveiller tout le monde dans la maison, tu sais. Avec Carson Wentz, avec Blankenship, qui manque ses bottés, il est blessé. Tu sais, il essaye deux bottés, il les rate complètement, rate le botté de la victoire. On s'en va en prolongation. Écoute, ça a été extraordinaire. Puis Carson Wentz, honnêtement, pas mauvais. Oui, je comprends. T'sais.
Moi, je dis 400 verges par la passe.
C'est super bon. Comment tu perds un match avec 400 verges par la passe? Puis il avait l'air en contrôle hier. C'est ce que j'ai aimé. Puis j'aime ça voir des corps qui réussissent à revenir puis à se rebâtir. La rédemption dans le sport, je pense que c'est probablement le plus beau phénomène. Tu sais, Carson Wentz, on l'avait jeté aux poubelles. C'était fini. Les partisans des Eagles étaient déçus. Puis là, il revient avec les Colts. Tranquillement, il se rebâtit, arrive au Monday Night, réussit une performance extraordinaire. Mais la deuxième demi, c'est là que tu vois la différence avec un entraîneur comme John Harbaugh qui a réussi à s'adapter. Puis surtout, Lamar Jackson qui a réussi à adapter aussi son attaque parce que ça marchait pas du tout en première demi. On lui courait après, on arrivait à le rattraper. Puis là, a décidé, je vais courir quand il faut, je vais rester dans la pochette quand il faut. Puis ça, pour moi, c'est un signe de maturité parce que les corps athlétiques dans la NFL, d'habitude, font pas long feu. Si tu veux durer pendant longtemps, il faut que tu t'adaptes un peu comme McNabb l'avait fait. Il courait beaucoup au début, il a arrêté de courir, puis il s'est établi comme un corps solide. Mais ça va être la même chose avec Lamar Jackson.
Oui, c'est ça qui est vraiment impressionnant, là, le fait qu'il a été en mesure d'orchestrer cette remontée-là là, de la pochette. Puis la semaine précédente, contre les Broncos de Denver, il avait passé pour plus de 300 verges. Ça avait été également de la pochette qu'il avait connu du succès avec son bras. Maxime, tu disais, bon, du côté des Colts, on croyait que Carson Wentz allait être la pièce manquante. Ça nous donnait l'impression que tout ce qui manquait aux Colts afin d'être des aspirants au Super Bowl, c'était d'avoir un bon carrière. Mais on se rend compte que cette formation-là n'est pas aussi solide qu'on le pensait là, durant l'été, surtout au niveau de la défense. La défense était supposée être une des forces des Colts d'Indianapolis. Puis hier, on s'est fait traverser, mais c'est pas juste lors du match du lundi soir contre Baltimore. Depuis le début de la saison, la défense des Colts est vraiment décevante. Là, ça fait en sorte qu'on se retrouve avec une fiche de 1 victoire et 4 défaites du côté de la section sud de l'Américaine. Mais je pense vraiment, je crois qu'on a surévalué les Colts d'Indianapolis avant le début de la saison. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses.
Ben, clairement, tu sais, je veux dire, je pense que c'est une drôle de saison. Moi, il y a un mot que je déteste dans le sport en général, c'est parité. J'aime les dynasties, j'aime les équipes qui dominent, j'aime surtout... non, mais c'est vrai, tu sais, j'aime les équipes qui sont capables de rester fortes avec un repêchage solide, même s'ils repêchent tard en première ronde. Puis je pense que du côté d'Indianapolis, on a une bonne équipe partout, mais on n'a pas une excellente équipe nulle part. Je pense que vraiment, il y a beaucoup de B+, puis il y a des joueurs B+, mais il n'y a pas de A+. Il manque encore cette flamèche-là, cet élément-là. Mais oublie pas qu'ils sont partis de loin aussi. Puis moi, Wentz, comme je te dis, tu reviens là-dessus. Moi, j'étais un fan dans le temps qu'il était. Moi, n'importe qui est repêché de la conférence, en fait, de la division 1-2A et qui est capable de marquer, de faire ses preuves dans la NFL, pour moi, c'est déjà une bataille incroyable. Mais à chaque fois que je vois sur le terrain, comme bien du monde, je fais « Dans combien de temps il va se blesser?
» Ouais, non, c'est ça. Mais c'est un bon point.
C'est juste ça qui fait toujours peur.
Des coachs. Ouais, ouais, non, absolument. Puis regarde, il s'est blessé avant même le début de la saison. Puis la saison a commencé, il subit une entorse aux deux chevilles lors du même match. Ça, j'avais jamais entendu parler de ça. Quelqu'un se fout les deux chevilles en un match. Ouais, comment tu peux faire ça? Tu fais une cheville, mais pas les deux. Mais non, c'est vrai que c'est ça à propos de la formation des coachs, parce qu'on n'a pas de joueurs de A+ aux positions clés. Darius Leonard, pour moi, c'est un joueur...
À part Jonathan Taylor. Jonathan Taylor est la seule exception.
Il a très bien joué hier.
Il a connu tout un match, là, vraiment. Là, il nous a démontré à quel point il était rapide, explosif. Mais qu'est-ce que je veux dire? Les positions les plus importantes, là, je parle de positions de carrière, de bloqueur à gauche, de chasseur de quart, de demi-coin. Ça, ce sont les quatre positions les plus importantes sur le terrain. On n'a pas de joueur dominant à ces positions-là. On sait que Wentz a le potentiel, mais d'une semaine à l'autre, on ne sait pas le genre de performance qu'il va faire. Comme tu dis, à chaque fois qu'il se fait frapper, on ferme les yeux, on espère que sa saison va pas se terminer. On va voir, mais c'est vraiment une défaite crève-cœur là, pour les Colts. On va mener 22-3.
Je suis sûr qu'à chaque fois qu'il y a un sac, la ligne offensive arrête de respirer, puis après ça, ils font « OK, il se relève. OK.
Exact. Ben, messieurs, on va parler maintenant du duel qui met aux prises les Browns aux Chargers. Pour moi, ça, c'était le match de la semaine, peut-être bien le match de l'année. Ça a été un match complètement fou. Victoire des Chargers de Los Angeles, 47-42. Justin Herbert, 398 verges par la passe, 4 passes de toucher, 1 touché au sol. Les Browns ont gagné 230 verges au sol. Je ne sais pas par où commencer avec cette rencontre-là. Ça a tellement été fou. Brandon Staley, l'entraîneur-chef des Chargers, lui, il démontre qu'il y a vraiment des couilles. Okay? Il y a vraiment des grosses couilles parce que son équipe a accordé un toucher à la fin de la demi, de la première demi, au début de la deuxième demi. Puis là, il a converti 2 quatrièmes essais lors de la même séquence parce qu'il se rendait compte que, écoute, si on m'a pas touché lors de cette séquence-là, le match est fini. Donc, il a pris les choses entre ses mains. Mika, qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre-là qui a vraiment été très divertissante?
Complètement fou. Moi, je pensais jamais dire ça, même si j'ai un chandail de Josh Cribbs chez nous. On me l'a donné, OK? Mais je pensais jamais dire que j'aime les Browns. J'aime ça les voir, honnêtement. Tu sais, puis mon but, c'est de faire tous les stades de la NFL. Puis Cleveland était comme en bas de la liste, là. Dans les dernières années, j'irais peut-être à... Ouais, je sais pas, mais... Ben, parce que les Browns, ben, les dernières années, je m'excuse, là, mais...
Oui, exact. Tu manques à rien. Je te le dis, Maxime.
Exactement.
J'ai été deux fois, mais on s'en parlera. Je vais en parler.
Mais tu sais, il y a plein d'autres villes autour. C'est pas loin. Je peux aller à Cincinnati. Je peux aller pas très loin à Détroit. Je peux aller à Chicago. Puis bon, Cleveland, on va juste passer par là. J'irais beaucoup plus pour les Guardians maintenant, l'équipe de baseball. Mais sont le fun à voir. Tu sais, moi, à partir du moment où Odell Beckham Jr. est allé là, pas le joueur, le personnage, Odell Beckham Jr. est arrivé à Cleveland, je me suis dit, OK, ça va être intéressant. Là, après ça, t'as plutôt Nick Chubb qui est là, t'as un monstre à deux têtes avec Hunt. Je veux dire, à un moment donné, ça devient vraiment intéressant de les voir jouer. Puis t'as Garrett en plus. Écoute, c'est une belle équipe. Pour moi, ça a été la défaite crève-cœur probablement de l'année. Tu sais, tu marques 42 points, t'as aucun revirement, 4 passes de toucher de l'autre côté. Mais tu sais, ils ont tout bien fait. Là, je regardais les stats, tu sais, même Baker Mayfield, 305 verges, 2 passes de toucher. T'as 161 verges pour Nick Chubb. Kareem Hunt, 61 verges de toucher. Ils ont tout fait, aucun revirement dans le match. Tu dis, OK, ils vont gagner, mais de l'autre côté, moi, Herbert, là, je sais que tu l'aimes, Didier. Moi, je l'aime pas. Sais-tu pourquoi? Parce qu'il fait tout ce que...
Oh!
Non, sais-tu pourquoi? Non, mais je veux dire pourquoi. C'est vraiment pas rationnel.
J'écoute.
Parce que c'est un excellent corps qui joue exactement le livre de jeu à la perfection. C'est un gars qui est pas flamboyant, il est pas... Mais il est efficace, il frappe toujours la cible, fait toujours le bon choix de jeu, toujours les bons jeux. Moi, j'aime les cas spectaculaires. Tu sais, comme hier dans le match des Ravens, T'as Lamar Jackson qui court, arrive à la ligne des buts, échappe le ballon. Tu le sais qu'il va arriver quelque chose. Tu sais pas quoi, mais il va arriver quelque chose. Justin Herbert, t'es comme, ben, il va réussir le toucher. Ouais, il va réussir le jeu de faux. Il va prendre la bonne décision. Il est tellement trop bon que ça en devient quasiment décevant pour moi. Puis, écoute, moi, il était passé en dessous de mon radar les dernières années. L'année passée, j'ai fait comme, wow, OK, on a quelque chose ici. Puis cette année, tu l'avais dit lorsqu'on a fait le premier podcast. Puis j'étais comme, non, je sais pas. Puis t'as raison. Fait que c'est pour ça qu'il me gosse, parce qu'il te donne raison.
Ah, ben, t'aurais dû commencer par ça. C'est rien contre Justin Herbert. C'est contre moi. Là. T'es fâché quand j'ai eu raison. Non, écoute, sa carrière de concession, Justin Herbert, il n'y a aucun doute là-dessus. Non. Je sais pas, moi, si le DG des Dolphins, quand il voit les faits saillants
ben oui.
des Chargers, est-ce qu'il ferme la télé, est-ce qu'il change de poste à tout le monde? Parce que les Chargers, en fait, les Dolphins, eux, ils avaient le choix. Tua ou Herbert, ils ont choisi Tua. Mais clairement, Herbert est supérieur, puis on n'est même pas certain si Tua est de calibre d'être un carrière partant. Écoute, qu'est-ce que t'as pensé de ce match-là, toi, de ton côté, Maxime? Est-ce que t'es d'accord avec moi que Justin Herbert, regarde, c'est le futur, là? Il peut échanger coup pour coup avec Patrick Mahomes.
Ouais. Ben, écoute, sincèrement, il y a plusieurs points à amener. Je suis allé voir du baseball à Cleveland, c'est pas si pire comme ville. J'habiterais pas là. Pour moi, aller voir un match-là, c'est parce que pour moi, Cleveland, c'est... Non, ben c'est la ville col bleu. C'est The Dog Pound. Puis moi, je suis un fan de Baker Mayfield parce que je suis un fan des Sooners. Mais en même temps, il n'y a jamais eu de grands corps qui sont sortis de l'Université d'Oklahoma, à part Kyler Murray. Puis on va regarder Hurts pour l'instant. Mais sincèrement, moi, tu sais, Herbert, moi, j'ai toujours craint les gars qui ont une année comme partant dans la NCAA. Et Herbert en était un exemple, surtout qu'il avait perdu une année quand il a transféré de Georgia à Washington. Fait que je me dis, OK, ça va donner quoi? Comme tu dis, clairement, honnêtement, présentement, c'est le directeur général de Miami, tu fermes la télé. Puis c'est-tu quoi, juste pour le fun, je vais même pitcher ça dans les airs, avec ce qu'on sait présentement, juste parce que, parenthèse, j'adore Maker qui dit c'est la première fois que j'entends quelqu'un reprocher à quelqu'un de faire exactement sa job comme du monde.
C'est ça, ouais. Puis,
sincèrement, pour l'instant, il est pas électrisant, parce que c'est pas justement un Mahomes, c'est pas un Kyler Murray, c'est pas un Jackson, il n'y a pas l'aspect course que les autres ont. Mais honnêtement, je pense que les étincelles s'en viennent, puis juste pour partir un débat, avec ce qu'on sait aujourd'hui, l'année passée, il est-tu numéro un devant Joe Burrow?
Oh oui.
Je suis obligé de dire oui. Que oui, ouais. Puis j'adore Joe Burrow. Moi, je suis un fan de Joe Burrow depuis son année magique là, à LSU. Mais à cause de ses atouts physiques, il est 6 pieds 6, il pèse près de 240 livres. Bon, oui, il n'est pas aussi explosif que Lamar, mais c'est une carrière qui est mobile. Et puis, moi, je le trouve électrisant. Il n'est pas électrisant de la même façon que Kyler Murray ou que Lamar. Mais écoute, son bras, certaines des passes qu'il complète, c'est des lasers qu'il lance. Là. Il y a vraiment un canon comme bras. Écoute, là, c'est toute une carrière, là, vraiment. Mais écoute, Mika, je suis habitué de me faire critiquer pour faire ma job. Je suis journaliste. Alors, qu'on fait son travail en tant que journaliste, qu'on le fait bien, il y a tout le temps des gens qui vont critiquer. Je suis habitué à ça.
Mais, depuis juste en fait. Mais moi, je vais dire une phrase que j'aurais jamais pensé dire de toute ma vie. Mais je pense qu'il faut prendre les Chargers au sérieux. Ouais. C'est la première fois que je dis ça depuis que je suis un fan de football.
Ben, écoute, non, mais c'est un bon point. C'est le genre de match, clairement, que l'année dernière, où il y a 3 ans, 4 ans, qu'ils auraient perdu, combien de fois ils se sont écroulés au quatrième quart, en deuxième demi, lors des dernières années, c'est rendu leur marque de commerce, pratiquement, du côté des Chargers. Mais une chose, moi, que je veux dire à propos de Baker Mayfield, là, ça va te faire mal, là, je vais peut-être te blesser, Maxime, t'en es à ta première visite au podcast, j'aimerais ça que tu reviennes éventuellement, prends pas ça personnel. C'est pas une attaque personnelle comme celle que Mika vient de me faire. Mais,
hey, ça va être mon baptême, j'adore.
Pour moi, Baker Mayfield, à chaque semaine, il me prouve qu'il n'est pas un carrière de concession. Et comme je disais, on a gagné 230 verges au sol là, du côté des Browns. Carrière de concession transporte l'équipe, comme Justin Herbert l'a fait, comme on a vu Lamar le faire en deuxième demi. Contre les Colts, Patrick Mahomes a fait. Baker Mayfield transporte pas l'équipe. C'est pas un mauvais quart, mais il est pas un carrière de concession, surtout avec l'attaque au sol qu'on a du côté des Browns. À chaque fois que je regarde les Browns, j'ai le même feeling que j'avais autrefois avec les Rams lorsque Jared Goff était au poste de quart. Je me dis à quel point cette équipe-là pourrait être dominante si on misait sur un meilleur carrière. Et à chaque fois qu'il se retrouve dans une situation durant le match, où est-ce qu'il faut qu'il passe le ballon? Puis la défense adverse sait qu'il doit passer le ballon. Très rarement, il y a quelque chose de positif qui se passe. Donc, c'est pour ça que j'ai mes réserves face aux Browns. J'adore l'équipe des Browns, cette formation-là. J'adore Kevin Stefanski. J'aime le monstre à deux têtes dans champ arrière que Meeker, auquel Meeker faisait allusion. Mais pour moi, Baker Mayfield, je ne vois pas mener une équipe à un championnat. Il a des limitations physiques. Il n'est tout simplement pas assez bon pour moi. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter là-dessus.
Je dois avouer que tu as entièrement raison, c'est sûr. Non, mais c'est sûr. Il ne sera jamais dans le top 5, Baker Mayfield. T'sais, si on parle d'un gérant de game, c'est Baker Mayfield. Honnêtement, je trouve que c'est une moins bonne version de Trent Dilfer il y a une vingtaine d'années. Encore une fois, je trahis mon âge, mais pour moi, c'est toujours un exemple. Trent Dilfer était le gars qui était capable de gérer un match. Et c'est ce que Mayfield va faire le restant de sa carrière.
C'est pas pire parce que moi aussi, je me rappelle de Trent Dilfer, fait que il y a ça. Mais tu sais, Baker Mayfield, on lui demande pas de transporter. Moi, ce qui m'a plus déçu, c'est pas Baker Mayfield, c'est la défensive. C'est supposé d'être une bonne défensive, aussi, celle des Browns. 47 points, puis il est bon, Justin Herbert, OK. Mais 47 points que la défensive des Browns accorde, pour moi, le match, c'est surtout perdu là parce que on avait toutes les statistiques qui disent, quand tu regardes les statistiques de cette équipe-là dans un match, tu te dis, ben, c'est une équipe qui a gagné son match, t'sais. Mais non, malheureusement.
Non, je peux confirmer parce que c'est bon la défensive de mon pool, puis j'étais moins 6.
Dans le négatif, ils t'ont enlevé des points, ça fait mal. Non, mais c'est vrai, Mika, quand tu marques 42 points, lorsque tu marques 42 points, t'es supposé gagner un match de football, puis ça n'a pas été suffisant. Donc oui, je critique Baker Mayfield, mais c'est vrai, la défense, c'est la première unité qui devrait être critiquée pour cette défaite du côté des Browns de Cleveland. Dimanche soir, ça, c'est un match qui était très attendu. Là, les Bills qui allaient au Arrowhead Stadium contre les Chiefs. Finalement, ils ont donné une claque aux Chiefs. Les Bills ont gagné 38 à 20, la défense de Buffalo. Moi, je n'étais pas certain. Elle était classée au premier rang de la NFL, mais je regardais les équipes contre qui elle avait joué. Je me disais, ça va être un test dimanche face à Patrick Mahomes et l'attaque des Chiefs. On va en savoir plus long sur la qualité de la défense des Bills de Buffalo. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a provoqué 4 revirements. Elle a limité Kansas City à seulement 20 points de marqué. Donc, ça a vraiment été toute une performance. Meeker, qu'est-ce que tu as retenu de cette rencontre?
Je retiens que Patrick Mahomes a en bas de 300 verges. 2 touchés, mais 2 revirements. Puis, je suis en train de me dire, est-ce qu'on a trouvé la formule magique chez toutes les équipes, pas seulement chez les Bills? Parce que depuis la défaite en finale du Super Bowl, on dirait que tout le monde est en train de copier ce que les Buccaneers ont fait pour battre les Chiefs. Puis, je me demande, est-ce qu'on n'est pas déjà un peu... Comment dire? Est-ce qu'on s'est pas déjà assis sur nos lauriers? T'sais? On a Patrick Mahomes, on va pouvoir se rattraper, il n'y a pas de problème, on va pouvoir revenir dans le match, notre attaque est explosive. Mais un, elle est plus aussi explosive qu'elle l'était. Deux, la défensive. La défensive, au début de la saison, on s'en parlait, Didier, puis on se disait, pas sûr que ça va tenir, cette défensive-là. Et même si ça tient pour la saison en séries éliminatoires, on risque de se faire ramasser et on va oublier. C'est ça. Puis on oublie le Super Bowl cette année. C'était déjà prévu. Moi, j'ai mis les Bills en finale cette année au Super Bowl. Mais je pensais pas qu'on allait réussir ce qu'on a réussi à faire contre les Chiefs. Et là, je commence à être inquiet pour les Chiefs parce que ça se passait à Kansas City. Puis pour avoir été à Kansas City plusieurs fois, l'ambiance est complètement folle. T'sais. C'est pas pour rien qu'on dit le stade le plus bruyant au monde. Il y a du bruit, il y a de l'ambiance. Puis tu sens que tout le monde y croit jusqu'à la dernière minute quand Patrick Mahomes est en uniforme. Mais cette année, je le sens indiscipliné. Puis ça, c'est probablement la pire chose pour un corps arrière parce que oui, il a toujours été spectaculaire. Oui, il improvise également. Des passes sans regarder, des passes de côté. Il va être créatif, mais avec un certain système. Tu sais, tu sentais qu'Andy Reid avait quand même un certain contrôle puis il disait, OK, tu veux être créatif, pas de problème. On va s'adapter à toi, mais quand même dans une zone contrôlée. Là, je sens que ça va dans tous les sens, ça explose de tous les côtés. Puis surtout, comme on le disait, la défensive n'est plus là pour ramener le ballon à Patrick Mahomes. Si on a un revirement, on est fait. 2 interceptions, alors qu'on a seulement 2 passes de toucher, bien, c'est pas habituel pour Patrick Mahomes. Et ça va pas être le fun, mais chapeau également à Sean McDermott, qui a réussi à bâtir cette équipe-là et qui réussit à lui faire passer le niveau supérieur. Parce que c'est bien beau avoir du succès en saison, en série, dans les années précédentes, mais il faut que tu battes ta bête noire. Tu sais, quand on dit « faut apprendre à perdre avant d'apprendre à gagner », on a appris à perdre l'année passée. Là, on est en train d'apprendre à gagner du côté des Bills, puis il va falloir les surveiller puis les prendre très au sérieux, même si c'est pas parfait. Mais tu sens qu'il y a une progression, puis c'est ça qui est important. Tu veux sentir cette progression-là. Fait que bravo aux Bills, puis les Chiefs, ben hey, ce sera plus aussi le fun.
Ouais, ben écoute, moi aussi, j'ai choisi les Bills pour aller au Super Bowl. Maxime, toi, qu'est-ce que tu penses de la performance des Bills? Et est-ce que tu es inquiet de la performance à l'opposé des Chiefs de Kansas City?
Ben, en fait, on est tous les trois à la même place. Moi, je pense que les Bills, l'année passée, ont juste grandi encore une fois en expérience. Tu sais, dans la vie, ça te prend une coupe de claque sur la gueule. C'est ce qu'on a vécu dans les séries. Tu sais, moi, Allen, pour moi, j'aime ses deux années complètement difficiles. Moi, j'aime son histoire à la base. T'sais. Il était dans un junior college parce que personne ne le voyait en première division. Il signe avec Wyoming, qui n'est pas une grande puissance, on s'entend dessus. Les deux premières années à Buffalo, vraiment pas convaincantes. Et là, l'année passée, explose. Et là, tu dis, OK, c'est une exception. Et là, il nous prouve cette année que c'est un vrai carrière. Moi, puis je veux pas avoir l'air du vous êtes beaucoup plus experts que moi, mais en écoutant, évidemment, le match à la télévision, et puis en écoutant les commentaires à gauche et à droite, on fait remarquer que je pense que les dépendent toujours du jeu explosif, la longue passe, la longue course de Mahomes. Et comme Maker a dit, je pense que maintenant, les défensives se sont ajustées. On laisse les maraudeurs en arrière, on brasse un peu Kelsey. Puis ce qui manque à Kansas City, c'est pas une équipe qui a des coureurs dominants. Ils ont des bons coureurs, dont en fait, ils viennent en perdre un. Mais tu sais, à quelque part, c'est toujours « Ah, oh, c'est pas grave, c'est 3e et 19. Pat va faire quelque chose. » Mais c'est plus ça, là. Tu peux pas mettre toute la loupe sur ce gars-là. Puis c'est aussi normal aussi que maintenant, tu sais, on parlait de Mark Jackson tantôt, l'année qu'il gagne l'MVP, l'année d'après, saison hyper décevante. Tu sais, je veux dire, une carrière, c'est des hauts et des bas, je vous apprends rien, tu sais. Et là, je pense que présentement, la Ligue, comme tu sais, rattrape les Chiefs. Puis ça, là, on va vraiment voir, autant de la part de Reed et de la part de Mahomes, c'est quoi les ajustements qu'ils vont faire. Mais honnêtement, puis évidemment, sans une défensive, et je répète ce que j'ai dit plus tôt dans le podcast aussi, il y a bien des défensives, on parlait des Browns, il y a beaucoup de défensives à desquelles on s'entendait énormément, qui sont pas là cette année. On n'a jamais vu autant de points dans la ligue. Là. C'est un jeu ouvert. Je ne sais pas si, évidemment, tu sais, je pense que les défensifs sont aussi frileux. C'est rendu que tu accroches moindrement quelqu'un. Je pense que si tu respires dessus, il y a un drapeau qui se lève tout de suite. Tu sais. Fait que c'est difficile aussi pour les défensifs d'être plus agressifs. Mais genre, je pense que du côté des Chiefs, c'est une période cruciale. Genre, il ne te reste pas grand temps pour t'ajuster si tu vas aller loin en série cette année.
C'est là.
Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier du côté de Kansas City. On a participé aux deux derniers Super Bowls. Puis, participer à trois Super Bowls de suite, là, c'est très difficile. Dans l'histoire de la NFL, là, c'est pas arrivé souvent. Là. Donc, tu joues plusieurs matchs par saison lorsque tu te rends jusqu'au Super Bowl. Et donc, il y a le facteur fatigue physique et mentale également qui entre en ligne de compte. Donc, qu'est-ce qu'on tente d'accomplir à Kansas City? C'est vraiment pas facile. Ben, écoutez, messieurs, on va y aller rapidement. Je vous avais demandé de m'envoyer vos déceptions de la semaine, votre réaction excessive, votre surprise de la semaine. Je vais commencer avec votre surprise de la semaine, de cette semaine 5. En commençant avec toi, Maxime. Alors, dis-moi, quelle est ta surprise de la semaine 5, rapidement?
Ben, en fait, j'ai dit son nom brièvement tantôt, mais Jalen Hurts fait un job pas pire à Philadelphie. Tu sais, je pense que c'est une équipe qui a pas grande vedette présentement. Je pense qu'évidemment, les Cowboys vont gagner cette division-là facilement. Mais, tu sais, je faisais deux touchés avec la course. C'est pas encore le meilleur passeur, mais je pense que le potentiel de l'être. Et, tu sais, honnêtement, je pense qu'il symbolise les nouveaux corps arrière d'aujourd'hui. Puis, à travers tous les noms qu'on mentionne depuis le début du podcast, ben, je pense que c'était une petite surprise d'un gars qui commence à prendre sa place.
Ouais, tu nous as dit dès le début que tu étais un partisan des Sooners. Là, tu y vas avec un ancien carrière des Sooners. Ouais. Donc, je suis pas vraiment surpris. Meeker, toi, ta surprise la semaine?
Les Bears de Chicago, en même temps, surprise pas tant parce que s'ils ont battu les Raiders, c'est aussi à cause de tout ce qui s'est passé en dehors du terrain. Mais moi, Justin Fields, tu te rappelles, je disais au début de l'année, moi, j'ai hâte de voir Justin Fields. Je l'ai suivi depuis QB1 sur Netflix. Là, j'ai l'impression de le connaître. J'ai suivi la saga à l'université, son changement d'université. Je suis un peu déçu de le voir avec 111 verges seulement. Puis je le sens pas tout à fait en contrôle, mais que les Bears aillent à Vegas pour battre les Raiders, ça m'a surpris avec Justin Fields comme carrière partant. Sinon, les Broncos contre les Steelers aussi, ça m'a surpris parce que les Steelers, tu sais, depuis le début de la saison, en fait, je dois dire que je ne souhaite pas de malheur aux Steelers, mais je souhaite des malheurs à Roethlisberger et de voir comme ça cette équipe-là tranquillement. Non, mais
c'est tellement de haine, Bob Meeker, là, aujourd'hui.
Moi, non, pas juste aujourd'hui, tu le sais. Moi, j'ai toujours comme ça mes têtes de turc, là. Puis Roethlisberger, c'en est une. Mais je suis vraiment content, tu le sais, c'est qui mon coach préféré. J'ai pas besoin de te le dire, hein? Ouais, Mike le plus Tomlin, bon coach de la NFL, sais. Tu dis. Voilà, le plus exactement. Bel homme de la NFL,
je sais, tu le dis tout le
exactement.
Maxime, t'es en train de te demander qu'est-ce qui se passe là. Il est comme...
fait que, tu sais, de
ben, je suis pas à la même place que toi, je suis à la même place. Je déteste Ben, j'adore Mike. Fait que...
Ben, c'est okay. Ça. Fait que les Steelers, la victoire contre les Broncos, ça m'a surpris, honnêtement. Je veux bien croire que le match était cette fois à Pittsburgh, mais je suis surpris quand même de cette victoire-là.
Ouais, ben moi, ma surprise de la semaine, j'en ai parlé avec Anthony Auclair, ça a été la performance de Davis Mills. Je sais que les Texans ont perdu contre les Patriots de Nouvelle-Angleterre, mais écoute, Mills a été un choix de troisième ronde, il n'était pas supposé de jouer cette année, là, il y a toute l'histoire avec Deshaun Watson, bon, la blessure à Tyrod Taylor, mais il a complété trois passes de toucher. Oh. Il est devenu seulement le deuxième carrière recrue à compléter trois passes de toucher face à la défense des Patriots depuis que Bill Belichick est arrivé à la Nouvelle-Angleterre en 2000, ça fait 21 ans. En tout cas, moi, il m'a impressionné. Est-ce que ça va durer? On ne le sait pas. Mais on l'a envoyé sur le terrain dans une situation vraiment très difficile. On se souvient à quel point ça a été désastreux la semaine précédente à Buffalo. Donc, le jeune là, nous a démontré quand même du caractère de rebondir de cette façon-là. Messieurs, votre déception de la semaine, je vais y aller avec toi en premier, Meeker.
Ben, un peu les Panthers, tu sais, j'aurais pu changer surprise et déception. Les Panthers de la Caroline, tu sais, perdent contre Philadelphie à la maison, alors que Philadelphie, ben, tu sais, c'est des hauts et des bas. On a eu un très bon début de saison chez les Panthers. Et là, on va perdre ce match-là contre les pauvres Eagles et Jalen Hurts. Je suis un peu déçu, je m'attendais à mieux. Puis Sam Darnold, je pensais que ça allait être l'histoire de rédemption de l'année, un cas mais connaissable depuis qu'il a quitté les Jets. C'est à croire que les Jets, dans le fond, ben il y a un curse, mais plutôt une malédiction sur les Jets, mais ça, on le savait déjà. N'importe qui passe par les Jets, tu as l'impression de perdre à peu près la moitié de ton talent. Ben Sam Darnold, c'était un peu ça qui était arrivé. T'sais. Il était avec les Jets, les pauvres Jets, il n'y a rien qui allait. Arrive avec les Panthers, ressuscite. Mais là, cette défaite-là, pour moi, c'est une déception parce que on était sur le lancer. Puis si on avait gagné cette semaine, là, on aurait pu se dire, OK, on continue à bâtir, on continue à aller vers l'avant. Mais là, on régresse quelque peu. Fait que pour moi, c'est un peu une déception de le voir dans cette position-là. Comme je disais, on parlait de Carson Wentz tantôt qui était un quart ressuscité. Pour moi, Sam Darnold, c'était l'autre quart ressuscité de cette ligue-là. Donc, je m'attendais à plus de sa part cette semaine.
Ouais, Maxime, toi, ta déception de la semaine 5?
Ben écoute, en fait, je vais un peu renchérir là-dessus parce que, encore une fois, je sens qu'il y a beaucoup de connexions avec Meeker parce que je pense que là, on est en train de voir c'est qui ça dans le monde. Non, mais sincèrement, tu sais, je veux dire. Puis de toute façon, il n'y a jamais de bons carrières qui sortent de USC. Fait que ça, c'est déjà réglé aussi, mais ça, c'est un autre point. Mais.
Carson Farmer, il a pas eu une bonne carrière. Ouais.
Ouais, quand même. Il y a des exceptions tout le temps. Mais honnêtement, c'est pas en fait une déception. On s'entend que... Pauvre Lions de Détroit. Sérieux. Écoute, c'est deux fois cette année qu'ils perdent par des bottes à la dernière seconde. Mais surtout un de 66 verges, pas cette semaine, mais il y a deux semaines. J'adore le coach. Je suis en train de tomber en amour avec Dan Campbell. Tu sais, quand il est arrivé, évidemment, avec sa conférence de presse, tu sais, l'expression... Comment il avait dit ça? « We're gonna chew their kneecaps off. » Tu sais, on va leur mordre.
Ouais.
Ouais, exact. C'est un peu dur à traduire, tu sais. Exactement. Puis, tu sais, on va être une équipe. Et honnêtement, écoute, c'est triste. Il se départ de Stafford. Et je suis tellement content pour Matthew Stafford parce que je pense qu'il a des très bonnes chances de se rendre au Super Bowl. Mais il était temps qu'il aille jouer pour une organisation gagnante. Pauvre Goff, mais encore une fois, Goff, un autre talent surévalué selon moi. Bon carrière, mais surévalué. Mm. C'est tellement triste ce qui se passe. Moi, j'ai un chum qui habite à Détroit. Et à chaque, tu sais, je veux dire, à chaque début de saison, quand on a discuté, c'est le fun de voir l'espèce de faux optimisme que ces gens, que les fans essaient de se construire, les petites miettes à laquelle ils s'accrochent. Mais honnêtement, quand j'ai vu Tony Campbell pleurer après la game, j'ai fait, OK. Tu sais, quand on dit l'expression, a player's coach, tu viens de remplir la définition. Là, je suis un fan de toi. Puis honnêtement, tu sais, depuis le début de la saison, à part peut-être un match, les Lions n'ont pas été déclassés.
Mm-hmm.
Fait que c'est sur le bord de passer notre étape, mais...
Ouais. Alors, écoute, il se présente à toutes les semaines, il joue avec effort, il y a un manque de talent, il y a une carence en termes de talent au sein de cette formation-là, mais ouais, moi aussi, là, lorsque j'ai vu Campbell, qui était émotif après la défaite de ses hommes, parce que j'oublie quel match vous avez mentionné qui était la défaite crève-cœur de la semaine, pour moi, ça a été celle-là, Puis on n'en parle pas parce que c'est les Lions gagnent jamais. Ouais. Mais on a tout fait pour gagner. À la fin de la rencontre, on aurait pu égaler la marque à la fin du quatrième quart. Puis Campbell a décidé d'y aller pour deux. Il a décidé, non, on y va pour la victoire tout de suite. On a réussi de convertir deux points. Il restait quoi, 37 secondes, je crois, en tout cas une trentaine de secondes. Puis malgré tout, il n'y avait plus de temps d'arrêt du côté des Vikings. Malgré tout, ils ont été en mesure de gagner ouais. assez de terrain pour réussir le placement. Donc, tu sais, il n'y a rien qu'il aurait pu faire de plus dans le Campbell. Il a tout fait, il est allé pour la victoire.
Déjà perdre contre un kicker, il faut le faire, mais en plus de perdre contre un kicker, des Vikings. C'est bien des quelqu'un qui ont choqué dans les 100 dernières années. Mais bon, c'est un autre sujet.
Ben oui, parfait. Ben écoutez, moi, ma déception, je vais y aller rapidement. On en a parlé, Mika a fait allusion. Sam Darnold a été victime de 3 interceptions. Son retour sur terre là, des Panthers a commencé la semaine dernière à Dallas. Mais là, c'était le Sam Darnold des Jets qu'on a vu. Là. Il a pris de mauvaises décisions. Je ne peux pas blâmer Adam Gase, à moins que je ne sais pas si Adam Gase avait fait le voyage en Caroline pour la rencontre, je ne sais pas, mais on ne peut pas blâmer Adam Gase. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'il va rebondir la semaine prochaine, Sam Darnold, parce que même lorsqu'il connaissait ses succès au début de la saison, je veux dire, je veux le voir contre des meilleures équipes, et jusqu'à présent, là, il ne passe pas le test depuis 2 semaines. Hey, mais si on va y aller rapidement, parce qu'on s'approche déjà de l'heure au complet pour le podcast,
ça passe trop vite.
Marc-André Chaloux. Ben ouais, ça passe trop vite en bonne compagnie. Votre réaction excessive de la semaine, votre overreaction. Maxime, c'est quoi ton overreaction, ta réaction excessive de la semaine?
Ben là, écoute, Gruden est out et le prochain que je vais voir partir, c'est Urban Meyer. Pour moi, c'est un redneck surévalué qui est prétentieux puis qui n'a pas l'affaire dans la NFL. C'est dit, je l'ai fait. Et honnêtement, je regarde ce que Brady fait avec autant de talent. Ça serait quasiment épeurant de savoir. Imagine s'il y avait autant de talent autour de lui. À New England, je veux dire, tu sais, c'est fou. Et là, je me dis, c'est-tu quoi? Je pense que l'époque Belichick devrait s'achever. Parce que là, tu as un jeune comme Mac Jones, puis tu pourras pas repêcher de la même façon avec Mac Jones que tu as fait avec Brady. Tu pourras pas aller chercher du talent moyen puis t'attendre à des miracles. Là, il est temps que tu ailles chercher le gros receveur, tu sais, les J.C. Lamp, les Jerry Jeudy, tu sais, les gars disponibles en première ronde pour aider ton corps arrière. Ça prend. Peux-tu avoir des running backs? On peut savoir plus qu'un running back qui est moyen, tu sais. Donc, honnêtement, moi, je pense que, merci
toi, pour ce que t'as fait, Bill. Moi,
pas cette année, mais très bientôt. Moi, je pense pas que tu peux le laisser, ce gars-là, repêcher. Tu peux plus échanger tes choix de première ronde pour 2 choix de deuxième ronde. Tu peux plus, tu sais, régresser dans le draft. Ça prend les gros noms, ça prend les valeurs sûres. Puis, on voit ce que ça apportait énormément d'équipes de faire des bons choix en première ronde. T'as pas Tom Brady, là. T'as Mac Jones. Je crois en Mac, mais c'est pas le même joueur. Tu ne peux pas y aller avec du talent moyen en espérant des miracles.
Ah, ben c'est une bonne réaction excessive. Là. Alors, le début de la fin pour Bill Belichick, c'est ce que Maxime souhaite. De ton côté, Mika, quelle est ta réaction excessive de la semaine?
Ben, c'est pas un souhait, mais je pense que les Chiefs de Kansas City ne gagneront pas un seul match cette saison. C'est fini. C'est fini, la dynastie.
Comment?
Patrick Mahomes est fini. Andy Reid va prendre sa retraite. Il se passera plus rien à Kansas City. Non, mais je suis déçu. En plus, sais-tu quoi? J'y vais cette année contre les Cowboys à Kansas City. Ça va être un massacre. Il se passe rien. Je veux dire, tu sais, ils ont tout le talent qu'il faut à l'attaque. Tu sais, avec Kelce, avec Tyreek Hill, avec Patrick Mahomes, même si l'équipe est moyenne, les receveurs sont moyens, la défensive est pas bonne. Sérieux, je regarde comment ils ont perdu les derniers matchs, puis je me dis, ah, ils sont blasés. Ils ont leur bague du Super Bowl, puis ils vont s'asseoir sur leur laurier, puis on gagnera pas un seul match. Non, j'exagère un petit peu, mais tu sais, ça va quand même être difficile. Je vois pas comment cette équipe-là. Ben oui, c'est clair, là, j'en mets, mais tu sais, je regarde leur horaire là, pour les prochains matchs. 2 matchs sur la route, d'abord à Washington, ensuite contre les Titans. S'ils perdent un de ces 2 matchs-là, je pense qu'on peut mettre la saison de côté. Je pense qu'on peut dire c'est terminé pour la saison parce qu'il faut absolument que tu gagnes ces 2 matchs-là avant de revenir à Kansas City contre les Giants. Je pense que ça va être dans la poche. Mais si tu perds un des 2 prochains matchs, aussi difficile que ce soit, tu peux le gagner n'importe comment. Tu peux le gagner avec un ballon échappé que l'adversaire récupère et que l'adversaire échappe encore puis que tu rentres pour un toucher. Je m'en fous, mais faut gagner les 2 prochains matchs. Sinon, c'est fini. Puis sinon, ben c'est fini. Pas une seule victoire d'ici la fin de l'année pour les Chiefs.
Ben écoute, moi, ma réaction excessive, elle ressemble à la tienne, Mika. Je suis pas aussi extrême que toi, mais moi, ma réaction excessive, c'est que les Chiefs, messieurs, ne participeront pas aux éliminatoires. On va rater les éliminatoires. Je suis pas prêt à dire que Mika qui ne gagnera plus un match du restant de la saison. Mais les problèmes qu'on a en défense, je ne peux pas prendre une équipe au sérieux qu'une défense comme celle des Chiefs. Je regrette Daniel Sorensen, le maraudeur. Écoute, il se faisait battre à plate couture dimanche soir, peu importe qui était le joueur qu'il tentait de couvrir. Bon, je sais qu'on était privé des services de Chris Jones, de Travarius Ward, mais quand même, même lorsque eux ils étaient en uniforme toute cette saison, la défense, elle était mauvaise. Et vous l'avez mentionné tout à l'heure, Patrick Mahomes ne joue pas bien. Il a déjà été victime de 6 interceptions. Vous savez, ça a été quoi son total d'interceptions l'année dernière? 6.
4.
Déjà après 5 semaines. C'est 6 en 2020. Donc, il a déjà égalé son total d'interceptions pour la saison de l'année dernière. Donc, je vois pas cette équipe-là mieux jouer, ou du moins se replacer afin d'être en mesure de participer aux éliminatoires. On va voir le fait peut-être de fiasco qui se passe du côté de Vegas avec les Raiders, avec l'affaire de Gruden. Peut-être que ça va leur donner un coup de main, justement, étant donné qu'ils font partie des deux de la même section. Mais peu importe, c'est une réaction excessive. Moi, je dis que les Chiefs ne participeront pas aux éliminatoires cette année. Bon, ben messieurs, écoutez, on a fait le tour. Hey, je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. Maxime, j'espère que tu as aimé ton premier passage au podcast Le Sac du Cœur. Je sais que tu es un grand amateur de football. Tu avais hâte d'avoir l'occasion de jaser football. J'espère qu'on t'a aidé à sortir ça de ton système.
Ah, ben non seulement ça, puis vous êtes juste le fun d'écouter. Honnêtement, je suis un connaisseur, vous êtes de grands connaisseurs. C'est toujours le fun de sortir un podcast, puis t'as appris des choses. Merci infiniment.
Ah, ben merci à toi. Merci à toi, t'es bien gentil. Meeker, encore une fois, je te remercie de ton passage au podcast. Puis la mi-saison s'en vient, là, mine de rien. Ça va être la 6e semaine d'activité. Donc, je vais devoir envoyer l'invitation à Mathieu Proulx afin qu'on se réunisse les trois là, afin de parler de ce qui se passe du côté de la NFL au milieu de la saison. Mais ça, c'est à venir au cours des prochaines semaines. Bon, ben messieurs, je vous laisse y aller. Je sais que vous avez des horaires à charger, les deux. Encore une fois, je vous remercie puis on se reparle une prochaine fois.
Ciao. N'importe quand. Ciao.
Excellent. Bon, bien, comme je le disais, le moment est venu de parler de Fantasy Football. Écoutez, ça fait presque une heure déjà qu'on a commencé l'enregistrement du podcast. Bien, pour faire place tout de même à Marc-André Chaloux, afin qu'il y ait de ses recommandations au niveau du Fantasy Football, en vue de la 6e, oui, déjà, ça va être la 6e semaine d'activité qui va commencer du côté de la NFL jeudi soir. Et Marc-André, bon, comme à l'habitude, qui va y aller de ses conseils afin de vous donner un coup de main là, à gagner votre ligue de fantasy football. Hey, désolé de t'avoir fait attendre, Marc-André.
Ben,
là, avec trois invités dès le départ, là, c'était difficile un peu de gérer.
C'est pas grave. De tous tes invités, je suis celui qui gagne le moins cher, donc c'est correct.
Ouais, c'est ça. On n'a pas un gros budget, là. Donne pas la mauvaise impression aux gens qui nous écoutent et qui nous regardent. On n'a pas un gros budget pour le podcast. Je vais m'en tenir à ça. Bon, écoute, hey, dis-nous, écoute, qui tu nous recommandes là, de cibler au niveau du waiver wire cette semaine? Là? Quels sont les joueurs qui sont sortis de l'ombre au cours des derniers jours?
On va faire ça rapidement, Didier. Devante Booker, porteur de ballon des Giants de New York, certains diront que c'était inévitable. Saquon Barkley est encore blessé pour, on a vu sa cheville pour quelques semaines. Oui, exact. Donc, c'est Devante Booker, bon, s'empare du champ arrière des Giants. Devante Booker, les Giants ont été chercher vraiment pour seconder Saquon Barkley. Dans ce genre de situation, il faut dire que l'an dernier, Booker avait obtenu quand même 4,5 verges par course avec les Raiders en 2020. Donc, c'est un substitut ou un porteur de ballon suppléant quand même de luxe. Il faut dire que les opportunités vont être là dans son cas pour Booker, surtout que les Giants affrontent les Rams lors de la prochaine semaine ou cette semaine plus tôt. Alors, ben, les Rams, on pense que c'est une défense assez dominante, mais non, ils sont quand même parmi, dans le dernier tiers du circuit, au niveau des verges accordées au sol, 4,5 verges au sol, c'est bon pour le 26e rang de la NFL. Donc, Devante Booker devrait avoir des opportunités et une occasion d'exceller cette semaine.
Oui, ta deuxième recommandation, c'est Darrell Williams.
Encore là, Clyde Edwards-Helaire s'est blessé dans le match de dimanche. On a vu qu'il a été aidé, on l'a aidé à quitter le terrain. Et Darrell Williams, bon, devient automatiquement le porteur de ballon numéro un dans une attaque prolifique, dans une attaque de luxe. Et il va avoir des chiffres de numéro un, Darrell Williams. Il a deux touchés en quatre matchs déjà dans un rôle limité.
J'ai bien hâte de voir ce qu'il peut accomplir dans un rôle plus grand. Il faut dire que, par exemple, peut-être apporter un petit bémol dans le cas d'Harold Williams, c'est qu'il n'a jamais porté le ballon plus de 11 fois dans un match. On pourrait avoir davantage de Jerick McKinnon et on sait que Jerick McKinnon a connu un bon camp chez les Chiefs. Donc, ce serait à voir. Il faut dire également, par exemple, que les Chiefs affrontent les Washington, Tennessee et les Giants lors des trois prochaines semaines. Donc, trois défenses vulnérables.
Ouais.
Exact. On ne pensait pas dire ça de Washington et défense vulnérable dans la même phrase, mais oui, il faut se rendre à l'évidence. Donc, je vous conseille, pour ceux qui ont des joueurs autonomes, des waivers à budget, ça serait bon de mettre beaucoup quand même de budget ou de FAB, qu'on appelle en anglais, sur Darrell Williams. Il va vous être utile.
Oui, Edwards-Helaire, qui a subi une blessure en genou, devrait être absent pendant quelques semaines. Et ta troisième recommandation, ben, c'est un receveur de passe des Giants. En fait, ça a été le joueur qu'ils ont sélectionné en première ronde lors du dernier repêchage. Kadarius Toney, qui là, on a assisté à son émergence. Il a vraiment été éblouissant contre les Cowboys de Dallas. Puis ça, c'est malgré le fait qu'on a perdu tôt dans le match les services de Kenny Galladay. Donc, il s'est retrouvé à être le receveur numéro un. Puis il a vraiment été très productif.
Kadarius Toney, bon, tu viens de le dire, il a été tout simplement incroyable. On dirait qu'il était seul sur le terrain. Et les Giants lui ont donné le ballon, donc 10 opportunités, 10 réceptions, 189 verges, plus de 19 points fantasy. Il faut dire, bon, qu'il joue, tu en as parlé, l'attaque des Giants est quand même assez décimée. Donc, Slayton n'a pas joué, Shepard n'a pas joué, Saquon Barkley a quitté le match, Kenny Golladay a quitté le match, Daniel Jones était dans le protocole des commotions. Donc, on peut s'attendre à ce que Kadarius Toney voit encore beaucoup de ballons lors du prochain match des Giants. Tu l'as dit, c'est un choix de première ronde. On a fait un investissement à son sujet. J'ai bien hâte de voir ce qu'il peut faire la semaine prochaine. Est-ce qu'on va pouvoir quand même, est-ce qu'il va avoir également des bandes vidéo? Est-ce qu'on va l'avoir étudié davantage? Mais il faut dire que ça reste quand même un cas incertain. Il a quitté le match. Ben, il a été expulsé, mais ici aussi, il a quitté momentanément le match en raison d'une blessure à une cheville. Son statut reste à vérifier. On dit que c'est rien de grave, mais surveillez quand même l'état de santé de Kadarius Toney cette semaine si vous l'ajoutez à votre équipe fantasy.
Ouais, moi, je crois au talent de Kadarius Toney. Je l'ai vu jouer lorsqu'il portait les couleurs des Gators de l'Université de la Floride. C'est un joueur qui est très rapide, très explosif. Alors, on l'a même utilisé lors de la formation Wildcat du côté des Giants. Alors, non, moi je risquerais, je tenterais la chance d'aller chercher au niveau du waiver. Dis-moi, quels sont les autres joueurs rapidement que tu nous conseilles de cibler cette semaine?
On cherche tous des ailiers rapprochés. Je cherche des ailiers rapprochés. Tout le monde cherche des ailiers rapprochés. Ouais. Je vous en propose trois cette semaine. David Njoku, est-ce qu'enfin la grande éclosion pour Njoku qui a été vraiment spectaculaire contre les Chargers? Ciblé 7 fois, plus de 20 points fantasy. Est-ce le début enfin de quelque chose ou il est simplement dans la vitrine avec un beau chou bien habillé, puisqu'on sait qu'il avait demandé d'être échangé au début de la saison? Ricky Seals-Jones de l'équipe de Washington, il a joué pratiquement tous les jeux à l'attaque de Washington la semaine dernière. 99% du temps, il était sur le terrain. 41 verges, ciblé 8 fois. Et les Washington affrontent la défense des Chiefs. Vous en avez parlé longuement tout à l'heure. Elle est exécrable. Et finalement, Dan Arnold, deuxième match avec les Jags. Il a été ciblé 8 fois, un sommet chez les Jaguars. Les Jaguars l'ont acquis pour quelque chose. Je pense que Dan Arnold, son rôle va grandir au fur et à mesure. On a un plan pour lui à Jacksonville. Et finalement, peut-être Geno Smith au poste de quart, une option quand même assez risquée, mais il a bien paru contre les Rams cette semaine. Si vous êtes un peu désespéré dans les pools à 16 équipes, moi j'en ai un à 16 équipes, c'est un peu difficile de trouver des joueurs sur le fil de joueurs autonomes. Il affronte les Steelers, ça ne sera pas facile, mais il a quand même DK Metcalf et Tyler Lockett avec lui, donc on ne sait jamais.
Oui, non, c'est vrai qu'il a bien paru lorsqu'il s'est amené. Là, il faisait une belle imitation de Russell Wilson. Je ne sais pas si ça va durer toutefois, mais écoutez, si vous êtes quelqu'un qui est désespéré à la position de carrière, pourquoi pas rouler les dés avec Geno Smith. En plus que les Seahawks n'ont pas de défense, ils doivent marquer des points s'ils veulent rester dans les matchs en plus. Écoute, c'est la cinquième semaine. Oui, absolument. C'est la cinquième semaine d'activité qui est maintenant terminée. Mais est-ce qu'il y a des choses que tu as appris là, au niveau du fantasy football au sujet de certains joueurs, certaines équipes après cinq semaines? Là, des choses qui te sautent aux yeux?
Il faut que je me vide le cœur, il faut que je vous parle de Allen Robinson que j'ai dans quelques poules.
J'aime ça quand ça commence, il faut que je me vide le cœur.
Il faut que je vous parle d'Allen Robinson, puisqu'on a... Ce que j'ai appris après 5 semaines, c'est qu'une attaque menée par Justin Fields, ça produit pas de chiffres élites, même si on a des joueurs élites autour de lui. Allen Robinson n'a pas inscrit 10 points fantasy cette saison. Et là, vous me dites, oui, mais en format PPR, il va être quand même ciblé davantage. Ça peut être quand même payant. Il a obtenu seulement plus de 5 réceptions seulement une fois cette saison. Donc, Allen Robinson, le problème, c'est que vous ne pouvez pas l'échanger. Personne n'en veut présentement. Donc, vous ne pouvez pas vraiment le libérer non plus. Donc, vous devez juste attendre, prier, croiser les doigts, espérer. Et Darnell Mooney également, seulement qu'un gros match. Il faut dire que, et pour les gens qui pensaient également que Justin Fields allait être un quart mobile, sachez, j'ai une bonne statistique pour vous. En 3 départs avec Chicago cette saison, il a 25 verges au sol. Tom Brady, lors de ses 3 derniers départs, il en a 30. Donc, juste pour mettre en perspective.
Bonne comparaison, ça. Wow. Et maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu as appris au cours des 5 premières semaines qui te saute aux yeux?
Il y a des champs arrière qui sont de véritables casse-tête, je pense. Aussi à Miles Gaskin du côté des Dolphins. Miles Gaskin, qui lors de la semaine numéro 4, avait obtenu seulement 3 verges au sol. Et là, on s'est dit, c'est terminé. On le laisse sur le banc la semaine dernière. En plus, c'est contre la défense des Buccaneers. Ça n'ira pas bien. Et il explose pour 2 touchés. 2 touchés, vraiment, Miles Gaskin. 10 réceptions. Ça, c'est pour ça que j'ai écrit. C'est un peu un mirage, Miles Gaskin, en ce moment. Puisque ces 10 réceptions, il a fait son dommage par la passe. Il a quand même simplement eu 5 courses dans ce match-là, mais il ne faut pas trop s'emballer avec Miles Gaskin. Je pense encore que c'est un joueur difficile à prévoir. Et bon, lors de la semaine numéro 4, c'était Malcolm Brown qui avait obtenu la majorité des opportunités versus Miles Gaskin. Cette semaine, c'est l'inverse. Bref, c'est mêlant. Il ne faut, j'éviterai encore Miles Gaskin. Je lui laisserai peut-être une autre semaine sur votre banc. Essayer de voir plus clair dans le champ arrière des Dolphins. Et je veux vous parler des Bills.
Dans le champ arrière des Bills, ouais.
Exact. On croyait que Zach Moss avait une emprise sur le champ arrière des Bills. Il avait obtenu au moins 12 points fantasy. Il avait inscrit des touchés lors des 3-4 derniers matchs. Et finalement, cette semaine, Devin Singletary nous a rappelé qu'il est encore là. Donc, ça reste un casse-tête encore, le champ arrière des Bills. Je ne sais vraiment pas trop où vous conseiller ou donner de la tête ou quoi faire encore avec le champ arrière des Bills. Donc, je vous conseille peut-être de faire jouer d'autres options si vous en avez dans votre équipe fantasy.
Oui, puis qu'est-ce qu'on fait là avec l'attaque des Niners? Parce que ça n'a pas été très productif avec Trey Lance au poste de quart. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec les joueurs en attaque de San Francisco au niveau du fantasy?
Il y avait un adage fantasy qui disait que peu importe qui est dans le champ arrière des Niners, il va être productif puisque l'attaque de Kyle Shanahan est basée sur la course. Sauf que là, avec Trey Lance, ce qu'on a vu cette semaine, c'est que c'est Trey Lance, le porteur de ballon. Il a obtenu 16 courses contre seulement 9 Elijah Mitchell. Donc, je me pose des questions à moyen terme si Trey Lance est le carrière d'avenir de cette équipe. Est-ce que tous les porteurs de ballon des 49ers, peu importe le nom, est-ce qu'ils vont être efficaces dans ce système-là? Je pense à Jeff Wilson, Trey Sermon, même Ryan Mostert l'année prochaine, je veux dire. Il y a lieu à se poser des questions sur l'attaque des 49ers menée par Trey Lance. Il faut dire que Trey Lance n'a pas connu un grand match, mais un carrière qui court. Il a quand même obtenu 15 points fantasy. Il n'a pas lancé de passe de toucher. Donc, c'est quand même c'est non négligeable. Mais à court terme, l'entraîneur Kyle Shanahan a dit que ce sera Jimmy Garoppolo qui devrait retrouver son poste s'il est en mesure de disputer la rencontre. Donc, on devrait avoir une attaque un peu plus, disons, traditionnelle dans le champ arrière. Donc, c'est bon pour Elijah Mitchell et peut-être Jeff Wilson que je vous ai conseillé d'aller chercher il y a quelques semaines.
Oui, si je ne me trompe pas, les Niners ont congé cette semaine et puis Trey Lance a subi une blessure à un genou. Durant le match du week-end dernier. Alors, en tout cas, on va voir, comme tu dis, c'est après la semaine de congé si Garoppolo sera remis de sa blessure à un mollet. Mais pour les gens qui souhaitaient voir Trey Lance être carrière partant des Niners, je pense que j'ose croire là, qu'ils sont convaincus, Lance n'est pas encore prêt à être carrière partant au niveau de la NFL. Je le dis depuis les matchs préparatoires, il y a des gens qui voulaient le voir remplacer Jimmy Garoppolo. Regardez, Jimmy Garoppolo, pour le moment, il demeure de loin supérieur à Trey Lance. Je pense que ça a été évident lors du match de dimanche.
Des Justin Herbert qui explosent sur la scène dès le premier ou deuxième match, c'est rare. C'est plus rare qu'on croit.
C'est l'exception, ce n'est pas la règle, effectivement. Ouais. Puis on le voit là, cette année avec toutes les carrières recrues qui ont été sélectionnés en première ronde, qui ont des ennuis à s'ajuster à la NFL. Là. C'est ce qui arrive là, plus souvent qu'autrement. Ben écoute, Marc-André, je te remercie de ta patience. Ça a été un peu plus long cette semaine, mais je te remercie de ta patience, je te remercie de tes conseils à Fantasy Football. Puis j'ose croire que ça va aider les gens, là, justement, à peut-être aller chercher quelques victoires et à participer aux éliminatoires du côté de leur ligue.
Merci, Didier.
Porte-toi bien, on se reparle la semaine prochaine. Bon, écoutez, je vais y aller en vitesse du côté des Alouettes, parce que ça fait déjà plus d'une heure qu'on a commencé l'enregistrement du podcast. On essaie de garder l'enregistrement à une heure au maximum. Là, on a défoncé ça, mais j'espère que vous avez apprécié cet épisode du podcast Le Sac du Cœur. Les Alouettes qui ont défait le Rouge et Noir d'Ottawa lundi après-midi au stade Percival Molson. C'était une victoire à l'arraché. Un touché victorieux qui a été inscrit par Cameron Artis Payne alors qu'il restait 23 secondes au quatrième quart. On a perdu les services de Vernon Adams au cours de la rencontre. Adams s'est blessé à l'épaule gauche. On n'avait pas beaucoup de détails. Il n'y a rien qui est sorti pour le moment où on enregistre le podcast concernant l'état de santé de Vernon Adams. Ça avait l'air assez sérieux. La seule bonne nouvelle, c'est qu'il s'est blessé à son épaule gauche non à son épaule droite, étant donné qu'il est un carrière droitier. Mais les Alouettes ont une courte semaine parce qu'ils vont déjà jouer samedi, encore une fois, contre Ottawa. Cette fois-là, la rencontre va avoir lieu au stade de la place TD. Alors, il y a fort à parier que lorsque l'équipe va reprendre l'entraînement mercredi, que c'est Matt Schultz qui sera aux commandes de l'attaque. Schultz a fait du bon travail en relève. Il s'est amené là, un peu comme un releveur, là, comme un closer, comme on dit au baseball, à la fin de la rencontre du côté de la défense d'Ottawa. Je ne crois pas qu'on était prêt à affronter Schultz. Il les a surpris avec une belle course de 17 verges. Il a été 3-3. Mais là, il va avoir une courte semaine afin de se préparer, afin d'affronter Ottawa. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça va être la même préparation que lors de la semaine précédente, puisqu'on va affronter la même équipe lors de deux semaines consécutives. Mais bien sûr, on va suivre qu'est-ce qui va arriver avec l'état de santé de Vernon Adams. Mais écoutez, les Alouettes ont battu de peine et de misère Ottawa, qui a été la pire formation de la Ligue canadienne depuis le début de la saison. Alors oui, c'était une victoire. Mais ça a été loin d'être convaincant parce qu'on a connu toute une première séquence du côté de l'attaque qui s'est terminée avec un touché. Et après ça, ben on a le seul autre touché qu'on a inscrit, ça a été lorsqu'il restait 23 secondes au quatrième quart. L'unité défensive a vraiment bien joué du côté des Alouettes. Elle a été en mesure de déranger le jeune carrière Caleb Evans du Rouge et Noir d'Ottawa. Mais une chose qui va être à surveiller, ça va être la ligne d'attaque des Alouettes. Parce qu'il y avait trois joueurs réservistes qui jouaient en raison de blessés. Tony Washington, finalement, est venu remplacer Chris Schlager, qui s'est blessé au début de la rencontre. Donc, Washington, techniquement, est un joueur partant habituel, mais il n'était pas à 100%. On a vu qu'on commençait à avoir des ennuis en termes de protection. Plus le match progressait, on a accordé 6 sacs du quart. Alors ça sera surveillé samedi prochain, lorsqu'on va croiser le fer à nouveau avec le Rouge et Noir d'Ottawa. Mais est-ce que Vernon Adams sera là? J'ai l'impression que non. Alors ça pourrait peut-être être un point tournant de la saison des Alouettes. On va voir ce que Matt Schultz a dans le ventre. Ça fait longtemps, là. Ça fait quoi? Je crois que Schultz en est à sa quatrième saison au sein de l'organisation montréalaise. Donc là, on va vraiment voir qu'est-ce qu'il a dans le ventre. Mais il a fait de l'excellent travail en relève lundi après-midi contre Ottawa. Bon, ben écoutez, j'espère que cet épisode du podcast Le Sac du Cœur vous a plu. C'était une émission chargée, je vous l'avais dit au début, hein, je ne vous ai pas menti. Ben écoutez, je vous remercie d'avoir téléchargé cet épisode. Si vous nous regardez via YouTube, eh bien, merci de nous regarder, de nous consacrer de votre temps au cours de votre semaine afin d'écouter et de regarder le podcast. On se reparle la semaine prochaine.